En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Lancé le 14 mai 2009, le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne traque le bruit de fond cosmologique, c'est-à-dire le rayonnement fossile de la toute première lumière de l'univers. Il doit cartographier le fond cosmologique micro-ondes de l'univers en intensité et en polarisation, des mesures qui devraient donner accès à une mine d'informations sur l'histoire de l'univers et ses propriétés à grande échelle. Jean-Michel Lamarre travaille au LERMA, Laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique, à l'Observatoire de Paris, Université Pierre et Marie Curie, CNRS, École normale supérieure, Université de Cergy-Pontoise. Il nous livre, dans cette conférence du Bureau des longitudes de mars 2011, le fonctionnement du satellite Planck, ses techniques employées, et nous donne l'interprétation des premières images de l'univers tel qu'il était 370 000 ans avant le Big Bang. Tout de suite, Jean-Michel Lamarre.
J'ai prévu de faire ma présentation en trois grandes parties. D'abord, vous parlez des objectifs principaux du satellite Planck, qui sont des objectifs de cosmologie, c'est-à-dire la mesure et la compréhension de l'univers à grande échelle et de ses propriétés. Ensuite, je vous parlerai de l'instrument français, entre guillemets, parce que le projet Planck est complètement international, européen, mais avec de fortes participations des États-Unis, par exemple. Et l'instrument haute fréquence, HFI, est un instrument, quand je dis français, entre guillemets, parce qu'il est lui aussi largement international, mais la France y contribue pour plus de 50%. Et enfin, à la fin, je vous parlerai de quelques aspects des 25 articles qu'on a publiés au mois de janvier sur les premiers résultats de Planck. Je vous dirai dans quelle logique nous sommes, ce sur quoi nous travaillons actuellement et ce que nous prévoyons pour l'avenir. J'imagine que vous avez déjà vu cette image, qui est le champ profond pris par le télescope de Hubble. Le responsable scientifique du télescope de Hubble a décidé, après avoir pris des avis auprès de la communauté scientifique, qu'il était intéressant de pointer le télescope vers des endroits du ciel où il n'y avait rien, aucune source connue, et d'intégrer pendant très longtemps pour faire sortir les sources les plus faibles. Et voilà l'image qui a été obtenue, qui comprend des milliers de sources. Et ensuite, quand on regarde ces sources, on a des moyens d'évaluer leur distance. Je reviendrai sur cette question-là. Et on s'aperçoit que près de nous, on se trouve avec des sources, des galaxies qui sont avec des formes connues. Et plus on s'éloigne, plus les sources sont lointaines, plus elles sont en réalité proches du Big Bang, plus ces sources sont mal formées, en quelque sorte. On a l'impression que ce sont des galaxies qui ne sont pas encore formées, que c'est de la matière en train de se structurer. Donc on voit ici, c'est une démonstration absolument extraordinaire du fait que l'univers n'est pas quelque chose de stable, que l'univers, quand on regarde loin dans l'espace, on regarde loin dans le temps, parce que la lumière a mis des milliards d'années avant de voyager jusqu'à nous. C'est une démonstration extraordinaire que l'univers a évolué et que ce qui est loin est très différent de ce qui est près. Et donc l'univers a une histoire, ce n'est pas quelque chose de stationnaire, et en l'étudiant près de nous, on ne l'étudie pas dans son ensemble. Évidemment, on se trouve un peu aussi frustré en voyant ça, parce qu'on se dit d'accord, plus on va loin, moins les objets qu'on voit sont formés, moins ils sont structurés. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avant ? On voit que du noir, on voit le bruit de fond du ciel, on voit qu'on touche une limitation. Les astronomes sont habitués aux limitations. Vous savez, à l'époque où on voyait les étoiles autour de nous, on disait que c'était la voûte céleste, et Flammarion a fait cette gravure pour expliquer que ce qui intéressait les astronomes, en quelque sorte, c'était de soulever les jupes de la voûte céleste pour savoir ce qu'il y avait derrière. Et que finalement, quand on fait de la science, il y a un côté transgressif dans la science et qu'il faut aller voir au-delà. Alors, ceci dit, si on revient à cette image-là, on a, après avoir le même bout de ciel pendant 3 semaines ou 6 semaines avec le télescope le plus puissant du monde, et surtout d'autant plus qu'il n'est pas gêné par l'atmosphère, on se demande ce qu'on peut faire de plus. Eh bien, vous savez qu'il y a des ressources pour ouvrir le domaine d'observation. Eh bien, c'est d'utiliser tout le spectre électromagnétique. L'image du télescope de Hubble était faite dans le domaine visible. Je vous ai représenté ici 16 décades de longueur d'onde. Et la partie de la lumière visible là-dedans, c'est juste un facteur 2, juste une octave en longueur d'onde. Et c'est une toute petite partie du ciel. Et en allant, les astronomes, et surtout depuis l'émergence des techniques du spatial et des satellites, eh bien, on peut aller voir d'autres domaines de longueur d'onde. Et ce que fait Planck, précisément, une des motivations du satellite Planck, les gens qui ont proposé le satellite Planck, et dont je fais partie au premier chef, ça a été d'ouvrir à l'observation astronomique un des derniers grands domaines pour lequel il existait très peu de mesures, c'est-à-dire le domaine de longueur d'onde, comprise entre 0,3 mm et 3 mm. Ceci dit, pour des raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, on a adjoint à ce domaine dans lequel il n'existe quasiment rien, il n'existait avant Planck quasiment rien, on a adjoint un domaine dans lequel il existait déjà des observations, qui est le domaine de longueur d'onde entre 3 mm et 1 cm. Donc vous voyez que par rapport ici, dans Planck, on se trouve avec un facteur 30 en longueur d'onde, ce qui est considérable, alors que le domaine visible, c'est juste un facteur 2. Et que voit-on dans ce domaine spectral? Ici, vous avez un spectre, ici, il y a l'intensité en échelle logarithmique, en fonction de la longueur d'onde, également en échelle logarithmique, et avec les différents objets qu'on peut voir entre 1 micron de longueur d'onde et 1 cm de longueur d'onde. Eh bien, en dehors du fond stellaire, qui est cette courbe ici, qui est en fait ce qu'on voit, les étoiles qu'on voit dans notre galaxie, eh bien, on voit essentiellement d'abord notre milieu, le milieu interstellaire, c'est-à-dire les gaz froids et la poussière froide de notre galaxie. Et dans ce domaine de longueur d'onde, si vous regardez à quelle température correspond un corps noir qui émettrait, par exemple, principalement à 2 mm de longueur d'onde, vous trouvez que ce corps noir doit être à une température de 3 Kelvin, c'est-à-dire extrêmement froid. Donc, ce qu'on voit dans le domaine d'observation de Planck, ce sont des objets très froids, comme le milieu interstellaire, par exemple, comme des galaxies, le milieu interstellaire qui est la source principale de rayonnement des galaxies hors de la nôtre, ou bien alors ce sont des objets plus chauds, mais dont le rayonnement est extrêmement décalé vers le rouge, parce qu'ils s'éloignent de nous extrêmement vite. Et si on raisonne en physique classique, non relativiste, on va dire que c'est par effet Doppler que ce rayonnement est décalé vers des grandes longueurs d'onde. Et on voit dans ce domaine-là, ici, on voit sur la droite, ici, le spectre, la source la plus puissante du ciel, qui est le rayonnement fossile. Autrement dit, le fond diffus, le fond cosmologique micro-ondes, ou le fond diffus micro-ondes. Vous allez me dire, ah ben, je pensais que ce qu'il y avait de plus brillant dans le ciel, c'était le soleil. Certes, c'était le soleil, mais pas s'il est près de nous. Alors, si on enlève le soleil et ce qui est près de nous, si on s'éloigne un peu de notre galaxie, le rayonnement le plus fort qu'il y a dans le ciel, c'est ce fond micro-ondes. C'est de très loin le domaine où il y a le plus de photons émis, où il y a le plus d'énergie aussi. À peu près 90% de l'énergie qu'il y a dans l'univers est liée à ce rayonnement fossile qui pourtant n'a été découvert que tardivement, dans les années 60. Et pour comprendre ce qu'est ce rayonnement fossile, je dois vous parler un peu de Big Bang. Alors, on m'a dit que l'assemblée que j'aurai devant moi est très savante. Donc, vous savez beaucoup de choses sur le Big Bang, sur l'évolution de l'univers. Je pense que pour comprendre ce que fait Planck, ça vaut le coup d'avoir une petite piqûre de rappel sur quelques éléments simples. On dit très fréquemment qu'il y a trois piliers observationnels, expérimentaux, qui viennent à l'appui de la théorie du Big Bang. L'expansion de l'univers, la formation des éléments légers, la proportion des différents éléments légers qu'on trouve dans l'univers, et le rayonnement fossile. Alors commençons par le premier, l'expansion de l'univers, la découverte de Hubble dans les années 30. Hubble, avec les premiers grands télescopes, et en particulier ce télescope de 100 pouces du mont Wilson, au-dessus de Los Angeles, a mesuré, évalué la distance des objets qu'il observait, des amas de galaxies qu'il observait, en prenant la galaxie la plus brillante, en voyant si elle était très brillante, c'est qu'elle était près de nous. Si elle était moins brillante, c'est qu'elle était plus loin. Donc il a pu construire une échelle des distances, comme ça. Et pour évaluer la vitesse, il a utilisé des raies connues et utilisé le décalage vers le rouge par l'effet Doppler. Donc il pouvait avoir une idée à la fois de la distance des galaxies qu'il observait et de la vitesse de ces galaxies par rapport à nous. C'est-à-dire qu'une raie était décalée vers le bleu si l'objet s'approchait de nous et décalée vers le rouge si l'objet s'éloignait de nous. Et il a découvert, avec des erreurs de calibration absolues, il a découvert cette loi fondamentale qui n'a jamais été remise en cause, c'est que les objets distants, les galaxies distantes de nous, s'éloignent de nous, et plus elles sont distantes, plus elles s'éloignent vite de nous, et qu'il y a une relation de proportionnalité. Et cette relation de proportionnalité, c'est que la vitesse d'éloignement égale H0D, où H0, c'est la constante de Hubble. Si on inverse le problème, on dit d'accord, avec cette géométrie-là dans l'univers, on cherche à savoir ce qui s'est passé avant, eh bien, on peut calculer le temps où la galaxie qui s'éloigne de nous était proche de nous, et quelle que soit la galaxie, on trouve que le temps auquel, en supposant que le mouvement était uniforme, si évidemment pas gagné, mais si les lois du mouvement sont les mêmes, que quelle que soit la distance, eh bien, toutes les galaxies étaient réunies au même endroit, en quelque sorte. Il y a un temps, 1 sur H0, qui est entre 10 et 20 milliards d'années. Et c'est tellement surprenant et dérangeant, ça, que Fred Hoyle, qui était un astrophysicien fameux de Sa Majesté, a dit dans une émission de radio, mais attendez, vous n'allez pas me faire croire qu'en fait, l'ensemble de l'univers procède d'une grande explosion, en anglais ça fait un Big Bang, et en voulant couvrir de ridicule cette théorie-là, il a donné son nom à cette théorie que, je dois dire, la très, très grande majorité des cosmologistes, comme vous le savez, admet, et pour moi, je ne sais absolument pas expliquer ce qu'on observe et ce qu'on voit actuellement quand on regarde l'univers à grande échelle sans cette théorie. Alors, ça, c'est l'expansion de l'univers qui est la première, qui est la source de la théorie du Big Bang. Quand on regarde les vitesses, la géométrie, etc., c'est déjà inévitable. Maintenant, si on pousse ce raisonnement comme Fred Hoyle, si on pousse ce raisonnement à l'absurde, on dit « Attendez, donc tout était rassemblé au même endroit, et donc au début, c'était quelque chose qui était très chaud. » Vous savez, quand on compresse un gaz, ben, il chauffe. Et si on inverse la flèche du temps, si on recompresse l'univers, ben, il va chauffer. Il va chauffer tellement que, eh bien, on va se trouver aux températures des réactions nucléaires. Et finalement, peut-être que les atomes vont avoir été formés dans cette explosion initiale. C'est peut-être de là que vient, de cette énergie qui se transforme en matière, que vient l'univers qu'on a autour de nous. Et pour illustrer ça, j'ai pris ce dessin, je l'ai volé à Shirley Ho, que j'aime beaucoup, parce que peut-être que c'est une flûte de champagne, et on a l'impression... Alors ici, tout à fait en haut de ce graphique, il y a maintenant, avec des humains qui observent le cosmos... ici, là, et puis on remonte le temps avec une échelle logarithmique sauvage, ici, et donc ici, le maintenant, c'est, je vous livre le morceau parce que vous connaissez la réponse, on est à 13,7 milliards d'années après le Big Bang, et puis 1 milliard d'années, c'est ici, et puis 500 000 ans, c'est ici, et donc ce qu'on dit, c'est que pendant les trois premières minutes de l'univers, il y a un livre de Jastrow que je vous invite à lire dont c'est le titre. Pendant les trois premières minutes de l'univers, eh bien, les éléments légers, c'est-à-dire l'hélium, l'hydrogène, l'hélium, le deutérium, le lithium, le béryllium, se sont formés dans une physique que l'on connaît bien, parce que c'est une physique qu'on est capable de reproduire dans les accélérateurs de particules actuels. Et comme on connaît bien cette physique, on dit, ben, si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, on est capable de prédire quel est le rapport, la quantité, la proportion d'éléments légers qui ont été formés. Et puis, non seulement ça, parce que cette quantité-là, elle dépend des réactions nucléaires, ça ne peut pas être n'importe quoi. Hein. Et si on trouve quelque chose qui est réaliste, eh bien, on va savoir quelle va être la densité de la matière, la densité des baryons, ici, pour parler des protons, des neutrons, essentiellement. Quelle est la densité de baryons dans l'univers à cette époque ? Et on voit ici qu'en fonction, sur la courbe de gauche, on voit qu'en fonction de la densité de baryons, eh bien, l'abondance relative des éléments légers, ici, il y a en haut, il y a l'hydrogène, hein, qu'on a mis à 1, c'est normalisé, à 1 pour l'hydrogène, mais derrière, juste après, il y a l'hélium, l'hélium, l'isotope 3 de l'hélium, puis le lithium, le deutérium, et puis il y en a d'autres encore. Eh bien, on voit qu'il y a ces différentes courbes, et que si, par exemple, on trouve qu'il y a 1% de deutérium, ou pas loin de 1% de deutérium, on doit trouver 1 pour 10 000 d'hélium 3. Et puis, beaucoup moins encore, 10 puissance 9 de lithium. Hein. Par contre, la solution qu'on trouve ici, eh bien, c'est qu'il y a 25% d'hélium, que le deutérium, c'est un peu moins de 10 moins 4, etc. Et on est capable de faire cette physique, donc, et la chose extraordinaire, c'est que c'est une physique qui n'est pas simple. Hein. C'est, il faut être assez savant en physique des particules hein, pour faire tous ces calculs, mais on est capable de reproduire en laboratoire ce genre de choses. Eh bien, on s'aperçoit que les proportions des éléments légers qu'on voit dans l'univers, ça correspond à une solution réelle. Ça colle extrêmement bien. Et donc, une fois qu'on a trouvé ça, on dit, ben, c'est peut-être cette solution absurde, ce Big Bang qui est décrié par Fred Hoyle, ben, peut-être que finalement, c'est une vraie solution. Dernier point, dernier pilier de la théorie du Big Bang, eh bien, c'est que si on regarde loin, très loin en distance, c'est-à-dire par exemple comme Hubble, eh bien, on regarde très loin dans le temps aussi, parce qu'on regarde ce qui se passait. Si on regarde la galaxie Messier 31, qui est à 2,4 millions d'années-lumière, eh bien, on voit cette galaxie telle qu'elle était il y a 2,4 millions d'années. Si on regarde à 13 milliards d'années-lumière, une galaxie à 10 milliards d'années-lumière, on la voit telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années. Et on se dit, ben, poussons le raisonnement jusqu'à l'absurde. Je vais regarder très loin, si vraiment la théorie du Big Bang est vraie, ben, je vais voir le Big Bang. Il n'y a pas de raison, hein, puisque c'est ce qui s'est passé il y a 13,7 milliards d'années, ben, on va voir le Big Bang. Qu'est-ce qu'on voit exactement ? Ou au moins, on va voir l'univers juste après le Big Bang, jusqu'où on peut voir, jusqu'au moment où l'univers est encore transparent. Parce qu'on imagine bien qu'un univers très chaud, avec de l'hydrogène et de l'hélium très chaud, c'est un univers ionisé dans lequel le rayonnement, les photons ne peuvent pas se déplacer librement. Ben, au moins, on va voir ça, on va voir tout près du Big Bang. Eh bien, ce raisonnement aussi simpliste, il est tout simplement vrai. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'on appelle la surface de dernière diffusion, c'est-à-dire que l'univers juste après le Big Bang. Une des raisons pour lesquelles j'aime bien ce schéma-là, c'est qu'on a l'impression d'avoir une coupe d'une boisson gazeuse dans laquelle on comprend bien que la partie supérieure, il y a du gaz là, dans lequel les photons ils peuvent se déplacer, et en dessous, il y a cette soupe d'ionisés, d'hydrogène et d'hélium essentiellement, dans lequel les photons ne peuvent pas se déplacer. Donc ce qu'on doit voir, c'est cette surface de dernière diffusion ici, et qui correspond à l'âge de 400 000 ans. Alors 400 000 ans, c'est 0,003% de l'âge actuel de l'univers. Donc c'est-à-dire un univers tout jeune. Et ce raisonnement, il est vrai quelle que soit la direction dans laquelle on observe. C'est-à-dire qu'on s'attend à voir tout autour de nous une surface qui correspond au moment où les atomes d'hydrogène, où les protons et les électrons se combinent pour former des atomes d'hydrogène. et où, une fois les atomes d'hydrogène formés, ben, les photons, l'hydrogène, c'est très transparent. Hein. Les photons, ils peuvent se propager jusqu'à nous. Et ça, ça commence à se passer à une température de 10 000 degrés. Et puis, quand l'univers refroidit en se dilatant, en réalité, compte tenu des distances et des quantités, c'est à partir de 3 000 degrés que le... Alors, on dit, bon, ben, tout autour de nous, on va observer une surface qui est à 3 000 degrés. Donc, on est dans un four à pizza, on va être cuit en 3 minutes. C'est oublier une chose essentielle, c'est que l'univers est en expansion. Et comme il est en expansion extrêmement rapide, et là, à cet endroit-là, l'endroit qu'on observe à ce moment-là, ce plasma s'éloigne de nous presque à la vitesse de la lumière, eh bien, le décalage vers le rouge dû... Alors, je vais dire dû à l'effet Doppler pour le moment. Si on raisonnait en relativité générale, il faudrait employer un vocabulaire différent. Il faudrait dire que les photons sont dilatés, etc. etc. Mais je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous soient très à l'aise pour discuter de la géométrie en relativité générale. Et donc, on va dire, par contre, l'effet Doppler, et ça revient quasiment au même, on peut ramener le phénomène à l'effet Doppler, eh bien... Ce rayonnement qui serait dans le four à pizza, qui serait dans l'infrarouge proche, eh bien, ce rayonnement, à cause du décalage vers le rouge par effet Doppler, est décalé dans le domaine millimétrique. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on voit dans le domaine millimétrique. Cette découverte a été faite en 1964 par Penzias et Wilson. Ils ont le prix Nobel par ça. Le satellite Kobe, lancé en 1989, a fait une carte complète du ciel. Et il a... alors, ici, ces ovales-là, ça représente tout le ciel hein, dans une projection de Mollweide. Certains d'entre vous, des fois, ont fait des planisphères dans cette projection. Ça représente la sphère céleste, hein, ici. Eh bien, si on regarde tout le ciel, en fait, on voit une teinte presque uniforme. Si on augmente le contraste beaucoup, presque uniforme, à une température de 2,7 Kelvin... Si on augmente le contraste beaucoup, on s'aperçoit qu'il y a une partie qui est un peu plus chaude et puis une autre partie un peu plus froide. Et c'est lié au mouvement propre du Soleil par rapport à cette surface de propre diffusion. Et 3 millikelvin. Ce qui veut dire que ce qu'on voit, c'est quelque chose qui, tel qu'on l'observe dans notre référentiel à nous, qui est à 13,7 milliards d'années-lumière, et que notre vitesse propre, par rapport à cette sphère, ne dépasse pas quelques centaines de kilomètres par seconde. C'est assez troublant, finalement, qu'on n'ait pas des vitesses qui soient relativistes par rapport à tout ce qu'on observe. Quelques centaines de kilomètres par seconde, ce n'est pas beaucoup. Hein ? C'est-à-dire, si vous regardez, par exemple, la vitesse de la Terre autour du Soleil, ben, ça va être 30 kilomètres par seconde dans un sens, 30 kilomètres dans l'autre. C'est-à-dire qu'on doit être capable de voir ce point un peu plus chaud ici, un peu plus froid ici. Eh bien, on doit être capable de voir que quand la Terre, dans son mouvement autour du Soleil, se dirige vers le point chaud, il doit paraître un peu plus chaud. Quand elle s'éloigne du point chaud, ça va paraître un peu plus froid. Il doit y avoir une modulation de cette composante dipolaire, etc. Eh bien, on la voit, cette modulation. Hein ? Donc, pour vous dire que les vitesses, bien que les distances soient... disons, difficile à imaginer. Je ne sais pas comment vous faites pour imaginer 13,7 milliards d'années-lumière. Moi, j'ai toujours un peu de mal. Et alors, si on augmente, si on enlève cette composante dipolaire et qu'on augmente un petit peu le contraste encore, eh bien, on voit des petites fluctuations ici et dont on se dit que ce sont peut-être les graines, les petites inhomogénéités à partir duquel se sont formées les galaxies et la structure de l'univers extrêmement structuré qu'on voit. En plus de cette mesure d'être très uniforme, cette source est en même temps à un spectre qui est extraordinairement près du spectre d'un corps noir. Ici, vous avez superposé la mesure et un corps noir à 2,728 Kelvin, et les deux courbes se superposent à mieux qu'un dixième de l'épaisseur du trait ici. Pour moi, c'est une des plus belles mesures faites dans l'astrophysique ou même en physique qu'on puisse faire. Et ça a valu d'ailleurs à John Mather, qui est responsable de l'instrument qui a fait cette mesure, ça lui a valu le prix Nobel, ainsi qu'à George Smoot, qui était responsable de l'instrument qui a fait la cartographie. Alors, Ce qu'on voit, hein, cette carte, je vous ai dit que c'était cette surface de dernière diffusion ici, là, et que c'est un plasma chaud. Hein. C'est un peu comme la surface du Soleil. Hein. Quand on observe le Soleil, ce qu'on voit, on voit des points un peu plus chauds, hein, des points un peu plus froids. Et en regardant, quand on observe le Soleil, d'ailleurs nos collègues de la physique solaire, en analysant l'image qu'ils voient, sont capables de comprendre la physique interne du Soleil. Et ils sont capables de tirer beaucoup de leçons. De même que les géophysiciens, en faisant exploser des charges ou en analysant les tremblements de terre, comprennent comment les ondes se propagent à l'intérieur de la Terre et sont capables de comprendre ce qui se passe. Or, ici, on a ce plasma chaud, ici. C'est un plasma qui est fait de protons, essentiellement de protons, d'électrons et de beaucoup de photons. Eh bien, on est capable de faire la théorie des ondes qui se propagent là-dedans. Et puis, on trouve que ce sont des ondes dites acoustiques, mais où les photons sont dominants, parce qu'il y a 10 000 fois plus de photons que d'électrons ou de protons. Et on est capable de faire cette physique, on est capable de décrire les ondes, de dire que les ondes se propagent au tiers de la vitesse de la lumière. C'est quand même pas tout à fait banal pour des ondes dites acoustiques. Et on est capable, en faisant l'analyse statistique de ces ondes, de prévoir d'ailleurs qu'il va y avoir des petits grumeaux à cette surface, que ça ne va pas être entièrement uniforme, et que ces petits grumeaux vont avoir une statistique déterminée. On décrit cette statistique en disant, ben, à tel, par exemple ici, là, j'arrête le balayage en fréquence, en décrivant par son spectre, ici. Sur la figure de droite, vous avez ici le nombre d'oscillations. Si, par exemple, pour L égale 100, vous voyez, eh bien, pour un cercle sur la sphère, ben, on va y avoir 100 périodes. C'est un spectre, comme un spectre de Fourier, mais pour une sphère, ce sont des harmoniques sphériques, ce qui correspond à cette taille. Si, par contre, on l'arrête à 50, ça correspond à une taille qui est plus grande, et ainsi de suite. Et alors, on peut montrer, parce qu'on est capable de faire la physique de ce gaz, que la forme du spectre qu'on attend va dépendre des différents paramètres. Ça va dépendre si le gaz est plus ou moins visqueux, la nature de la matière qui fait la masse, et ainsi de suite. Et par exemple, ici, on a représenté un modèle, c'est une animation qui est volée à Wayne Hu. Eh bien, on va être capable, par exemple, ici, il y a la proportion de matière dans l'univers qui varie, vous voyez l'échelle de droite, hein, entre... On dit que ben, la matière va représenter au maximum 50%, hein, ça correspond au 0,5, qui est ici 50% de la quantité totale de masse plus d'énergie, E égale MC2, vous savez que c'est la même chose. Donc on prend l'univers, on regarde sa quantité totale de matière et d'énergie, et on voit que cette courbe, ce spectre-là, va dépendre de la quantité totale de matière et d'énergie. Par ailleurs, si on dit... qu'on va décider que la matière, cette fois-ci, on s'intéresse non pas à la quantité totale de matière, mais uniquement des baryons, qui sont les protons et les neutrons essentiellement, hein, eh bien, on va avoir une forme différente, et ainsi de suite. Et si on s'intéresse maintenant à la polarisation du rayonnement et qu'on fait à nouveau une analyse sphérique, on va s'apercevoir qu'on va être extrêmement sensible au moment où l'univers, après... que les électrons, les protons se soient recombinés. Ensuite, quand les premières étoiles vont se former, eh bien, elles vont rayoniser l'hydrogène. C'est ce qu'on appelle la rayonisation. Mais en fonction du moment, ici, vous avez sur l'échelle de gauche le moment où se fait la rayonisation et sur l'échelle de droite, ici, l'intensité de cette rayonisation. Eh bien, on voit que le spectre, et en particulier cette partie-là du spectre, dépend énormément de ces quantités-là. On voit apparaître ici... une petite courbe blanche, là, qui est en fait la signature de quelque chose qui se serait passé très tôt dans l'histoire de l'univers, à 10⁻⁴0, 10⁻⁴0 secondes. Hein. Aussi des choses qu'on a un peu de mal à imaginer et qu'on appelle l'inflation. Et c'est une théorie dont on a besoin pour expliquer pourquoi, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde l'univers, on voit la même statistique, on voit la même chose. Alors que la théorie nous dit que ces endroits-là ne peuvent pas être liés par une causalité. Si on voit la même chose, c'est qu'il y a un moment où c'était lié par une causalité. Et donc, c'est avant l'inflation, à un moment donné, il y a un phénomène dont on ne connaît pas la nature, mais qu'on a inventé, qui est une expansion extrêmement rapide de l'univers. Et ça doit avoir laissé une onde gravitationnelle dont on verrait la trace dans certaines caractéristiques de la polarisation du rayonnement. Et voilà, c'est tout ça que Planck veut mesurer et ce qui a déjà été mesuré partiellement. Alors, on a vécu une période absolument fantastique ces 15 dernières années. Regardez, en 1995, voilà où on en était dans la mesure de cette fameuse courbe, de ce fameux spectre qui contient énormément d'informations. Et vous voyez qu'on a des mesures tout à fait contradictoires, qu'on ne sait pas grand-chose. Cette courbe-là, c'est une courbe purement théorique. Ce sont nos collègues théoriciens de Planck actuellement qui se disent, ben voilà, le plasma, on doit avoir ça, ou ça peut être ça, ou ça peut être ça. Ça dépend des paramètres de l'univers qu'on ignore. Mais on ne sait même pas si cette théorie est bonne, parce qu'il y a des données contradictoires. Ça, c'est en 1995. La chose entièrement nouvelle arrive en 2000-2002, avec les données de Boomerang, de Maxima, qui sont deux expériences en ballon stratosphérique, qui ont cartographié des petits bouts du ciel, et dont je vous ai montré une image tout à l'heure, et puis les données du satellite WMAP, et qui disent, ben voilà, on a ces points de mesure ici, et ces points de mesure nous donnent des indications sur ce qu'est l'univers. Alors voilà la carte de WMAP, voilà les équations qu'on utilise pour interpréter cette carte, qui sont la relativité générale agrémentée du modèle standard de physique des particules, et à partir duquel eh bien, on déduit, on trouve un univers tout à fait... un modèle extrêmement cohérent. Alors voilà, ici, quels que soient les moyens d'observation qu'on prenne, qu'on regarde l'expansion de l'univers, qu'on regarde le spectre du rayonnement fossile, qu'on regarde la densité de l'univers, qu'on regarde maintenant, il y a un nouveau moyen qui s'est rajouté, en regardant le cheminement du rayonnement qui est altéré par l'effet de lentille gravitationnelle des différentes masses, on trouve un résultat cohérent, qu'on appelle le modèle de concordance, et qui est un univers donc, qui paraît inévitable si on croit, si on pense que la relativité générale est vraie et que la physique des particules est vraie. Eh bien, c'est qu'on a un univers qui a un âge de 13,7 milliards d'années, que la constante de Hubble, c'est 73 km par seconde par mégaparsec, que la surface de dernière diffusion qu'on voit, elle est décalée vers le rouge d'un facteur 1089 plus ou moins 1, on voit... Ce qu'on voit à en moyenne, cette surface de dernière diffusion, qui en fait qui a une certaine épaisseur, eh bien, on la voit à 380 000 ans environ. Et surtout, on trouve les trois dernières lignes de cette description de la matière et qui sont représentées ici, c'est le contenu de l'univers, quand on regarde l'ensemble matière plus énergie. Eh bien, c'est que notre univers est fait essentiellement d'énergie, que c'est une énergie qui est en train de... On se posait la question, il y a quelques années, on se posait la question de savoir si l'univers est allé retomber sur lui-même d'après son propre poids ou s'il allait se dilater indéfiniment. Eh bien, on sait maintenant qu'il réaccélère, non seulement il va se dilater indéfiniment, mais de plus en plus vite, apparemment, d'après ce qu'on voit actuellement, et que ça représente 70% du contenu de l'univers, cette énergie capable de réaccélérer, que la matière... qu'on a les baryons, celle qui fait qu'on touche, qui interagit avec le rayonnement, qui interagit avec les autres particules, ça représente que 4% de l'univers, et que le reste de la matière, qui a une masse, eh bien, c'est une matière qui interagit très peu avec les photons, qu'on ne voit pas, et qui interagit très peu avec les baryons, et dont on ne sait pas ce que c'est, et qu'on appelle la matière noire. Voilà. Donc, le modèle d'univers. Et alors, ça, c'est après WMAP. Il est évident qu'avec un univers aussi étrange que ça, qui vous interpelle autant que ça, eh bien, on se dit d'abord, il faut vérifier que les mesures du satellite WMAP sont les bonnes. Et puis, il faut mettre à l'épreuve toutes les théories. Et on sait très bien qu'une façon de mettre à l'épreuve les théories, c'est d'augmenter la précision de la mesure et d'augmenter le domaine des mesures, et c'est ce que va faire Planck de façon assez considérable. C'est illustré par ces trois cartes ici. Ici, il y a une carte du ciel par Kobe. Ici, au milieu, par WMAP. Et en bas, vous avez la carte du ciel de Planck, telle qu'elle a été publiée. Et vous voyez le progrès à la fois en résolution angulaire, puisqu'on passe de 7 degrés à 5 minutes d'arc, et que la mesure qu'on fait, pour ça, les détecteurs de Planck sont environ 1000 fois plus sensibles que les détecteurs de Kobe. Alors, 1000 fois plus sensible, c'est ce dont on rêvait, c'est tiré de mon cahier en 93, de mon cahier de laboratoire, quand j'ai invité mes collègues de l'IAS à une réunion pour leur dire, écoutez, je pense que la technologie, dans quelques années, va être mûre pour qu'on fasse 1000 fois mieux que WMAP. Et j'en avais déduit des sensibilités théoriques que j'espérais pouvoir qu'on puisse attendre. Et ces chiffres-là, qui correspondaient à l'époque à une amélioration d'un facteur de 100 de la sensibilité des détecteurs dans le domaine, de deux ordres de grandeur, eh bien, que ces chiffres sont à peu près ceux qu'on a maintenant, 17 ans plus tard. Et pour ça, pour avoir cette sensibilité-là, on utilise des détecteurs qui sont des bolomètres, c'est-à-dire ce sont des détecteurs qui ont un absorbant, qui absorbent le rayonnement, l'énergie du rayonnement, qui sont chauffés par ce rayonnement, qui ont une très faible capacité calorifique. Et il y a un petit thermomètre minuscule dessus qui mesure cet échauffement. Et pour que tout ça, ça marche bien, il faut que ce soit à très basse température, parce que vous savez que plus la température est basse, plus la capacité calorifique d'un corps est basse, à ces très basses températures. Et voilà l'image d'un bolomètre. Alors, l'absorbant qui absorbe le rayonnement, c'est une grille résistive. Le rayonnement électromagnétique développe un courant électrique à l'intérieur de cette grille. Et ce courant électrique, comme cette grille est résistive, eh bien, par effet Joule, simplement, il y a de l'énergie qui est déposée. Et puis, la chaleur se propage jusqu'au thermomètre ici. Alors, pour voir l'échelle, vous avez 1 mm là, avec la barre jaune. Et puis, vous avez ici, avec une, soit être une pièce de 1 cent ici, vous avez les petits cristaux qui font les thermomètres ici. Voilà, ça vous donne une idée de la taille réelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis une grille plutôt qu'un absorbant résistif ? Eh bien, parce qu'on craint beaucoup les rayons cosmiques. Et les rayons cosmiques, avec une grille, ils ont moins de sections efficaces pour interagir avec le détecteur. Et donc, s'il y a des rayons cosmiques, on va être moins gêné par les rayons cosmiques. Et vous allez voir qu'on avait raison de craindre des rayons cosmiques. Ici, il y a un autre type de détecteur où il y a deux détecteurs, en fait, avec un à des fils verticaux, l'autre à des fils horizontaux. Et seuls les champs électriques parallèles aux fils sont développés. Ça permet de détecter la polarisation du rayonnement. Et tout ça, c'est extrêmement important parce que, certes, ce rayonnement, c'est le plus, le fond diffus cosmologique, c'est le rayonnement le plus important de l'univers, mais nous, on s'intéresse à des fluctuations qui sont plutôt de l'ordre du millionième ou de quelques millionièmes de ce rayonnement extrêmement uniforme. On s'intéresse à des toutes petites déviations. Et alors, la logique, alors vous avez vu qu'il y a 9 bandes en Planck, et la logique, c'est que, vu le type de sensibilité qu'on a, bien qu'on observe une source très brillante, on va être gêné par les autres sources qu'ils peuvent émettre dans le domaine de longueur d'onde. En particulier, et l'idée, c'est qu'avec ces 9 bandes spectrales, on va être capable d'identifier ces sources et puis de les enlever. Alors ici, vous avez ce... On va en quelque sorte identifier les sources et séparer les composantes, identifier chacune des composantes et l'étudier en elle-même, ce qui est passionnant pour un astrophysicien, mais pour un cosmologiste, c'est une gêne. Donc, finalement, on a mis ensemble dans Planck à la fois des physiciens et puis des astrophysiciens qui s'intéressent à l'astrophysique qu'on peut faire avec les avant-plans. Donc, il y a la poussière du milieu interstellaire, il y a le rayonnement synchrotron, le rayonnement free-free dans notre galaxie, il y a des galaxies extérieures, il y a ce qu'on appelle l'effet Sunyaev-Zeldovich, qui est l'effet Compton inverse dans les amas de galaxies, parce que les amas de galaxies, il y a des nuages d'électrons très chauds, et ça distord le rayonnement fossile, et on doit être capable de séparer toutes ces composantes. Alors, donc, je vais me concentrer un peu sur l'instrument haute fréquence. C'est lui qui amène le plus de nouveautés, parce que WMAP n'avait aucune mesure dans ce domaine de longueur d'onde. Voilà les différentes bandes spectrales de l'instrument haute fréquence. Et on a, pour cet instrument, mélangé des techniques radio et des techniques infrarouges. Ici, vous avez un cornet, un peu comme les cornets radio d'un radar, vous savez, qui regarde l'antenne. Et ici, on a des filtres interférentiels comme dans l'infrarouge. Et donc, ce cornet-là, sur la droite, il voit le télescope de Planck. Et donc, via le télescope, il voit un endroit bien précis du ciel. Et le rayonnement passe à travers les filtres et va jusqu'au bolomètre, ici, dans lequel il est détecté. Et le bolomètre est capable de détecter 10 moins 17 watts. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous imaginez que mettre en orbite les détecteurs doivent être refroidis juste à 1/10 de Kelvin au-dessus du zéro absolu. Vous imaginez que faire ça au sol, ce n'est pas simple, mais faire ça en orbite, c'est une espèce de tour de force. Le système de dilution est fait par l'air liquide sous la houlette d'Alain Benoît à l'Institut Louis-Néel. Et vous voyez, c'est ce système-là, ici, qui permet de passer entre un 6K et puis 100 mK ici. Et puis, il y a toutes les optiques qui sont ici. Et de l'extérieur, ça ressemble à ça. Voilà ici l'instrument haute fréquence qui est au centre du plan focal. Autour, l'instrument basse fréquence qui utilise des techniques radio, semblables à celles de WMAP, mais un peu plus sensibles. Vous voyez ici, là, on voit les corrugations des cornets. Hein. Et puis, ici, il y a, j'ai représenté ça, vous avez déjà vu tout ça, mais voilà des gens en train de monter les cornets dans Planck. C'est du spatial, bon, on se protège des poussières tout au long de la fabrication. Voilà, pendant les calibrations à l'Institut d'astrophysique spatiale, l'instrument haute fréquence. Le voilà en train d'être monté à Alcatel Alenia Space. Vous voyez, des fois, c'est sportif de monter un satellite. Et là, on pose le télescope au-dessus de l'instrument. Le satellite est presque monté. Vous voyez que c'est quand même une belle bête, puisque ça fait 4 mètres de haut sur 4 mètres de large. Et vous voyez ici le satellite à courroux avant le lancement, où vous reconnaissez ici les cornets, l'instrument haute fréquence. Et puis, à travers, par un jeu de réflexion ici, j'aime beaucoup cette photo parce que ce n'est ni plus ni moins que le satellite Herschel, qu'on voit derrière dans cette image par une double réflexion. Et les deux satellites ont été lancés ensemble par un Ariane, donc on voit ici dans son bâtiment. Alors si vous voyez le petit machin bleu en bas ici, c'est l'énorme camion qui tire cette plateforme. Vous voyez le camion ici, et qui fait quand même plus de 50 mètres de haut. Et sur plusieurs kilomètres, entre le bâtiment d'intégration ici et le pas de tir ici. Alors, ça fait du bien de voir qu'ils ont bien mis les bons satellites à l'intérieur de la coiffe et ben, on ne les voit plus. Hein. C'est très frustrant.
Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain.
Et je peux vous dire que c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant de voir décoller les 800 tonnes.
Allumage des EAP et décollage.
Les 800 tonnes d'Ariane. À une vitesse absolument effarante. Et il part tout droit vers le point de Lagrange L2, qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, au-delà du Soleil. Et il est mis en orbite autour du point de Lagrange L2. Alors ça, c'est une représentation où les choses ne sont pas vraiment à l'échelle. Hein. Mais vous avez la Lune ici. Ce qui est à l'échelle, c'est la distance entre le point de Lagrange L2, la Terre et la Lune. Et donc, vous voyez la position standard du satellite Planck, ici. Il tourne le dos à la Terre et au Soleil. Il y a le panneau solaire qui est derrière, là, qui amène l'énergie au satellite. Et il fait la mesure en tournant sur lui-même. Il fait un tour en une minute. Et il fait ça pendant une quarantaine ou une cinquantaine de fois, donc 40 à 50 minutes. Et puis l'axe de rotation est décalé de 2 minutes d'arc. Et ça, ça fait en gros qu'il suit le mouvement de la Terre. L'axe de rotation reste à peu près aligné avec le Soleil en permanence. Et qu'au total, au bout de 6 mois, avec cette stratégie de balayage, au bout de 6 mois, eh bien, on va avoir fait une carte complète du ciel. Alors, c'est une représentation symbolique que vous avez ici de la méthode de mesure, mais qui, je pense, est assez explicite. Et ça permet, voilà, la Voie lactée. Et alors, quand on représente le ciel par cette projection de Mölweid, on la représente toujours en coordonnées galactiques. En coordonnées galactiques, c'est-à-dire que la barre lumineuse que vous voyez au centre de l'image, c'est notre galaxie, c'est la Voie lactée. Et je vais détailler un peu cette image, mais avant, je vais vous dire un mot de la façon dont le satellite marche en orbite. On avait, au début, vous avez vu mon cahier, là, avec les prédictions, et on avait fait des études de savoir quelle science on pourrait faire avec une telle sensibilité, et on en avait mis des spécifications dans sensibilité qui est la courbe bleue. Plus les chiffres sont bas, l'unité c'est des micro-Kelvin racine de seconde, c'est-à-dire la sensibilité à un delta de température sur le rayonnement fossile de 1 millionième de Kelvin pour une seconde de temps d'intégration. Et la courbe bleue, c'est la spécification. Les points bleus, c'est pour les 52 détecteurs de Planck des différentes bandes. Ici, vous avez la bande à 100 GHz, 143 ici, 217, 353, 545, 857. Vous avez les points mesurés au sol, les sensibilités mesurées au sol. Et les triangles rouges, ce sont les sensibilités mesurées en vol. D'une part, c'est fantastique parce que excusez-moi, la courbe bleue, ce n'est pas la spécification, c'est le but qu'on s'est donné, c'est-à-dire que c'est 2 fois meilleur que la spécification. Donc vous direz que c'est fantastique, on a fait 2 fois, mais on a travaillé tout, les gens, ceux qui ont développé les détecteurs, la cryogénie, qui ont conçu l'ensemble, ont travaillé de façon merveilleuse, puis ils font un instrument qui est plus sensible même que le but qui s'était donné. Mais quand même, en vol, on a un petit peu moins bien que ce qu'on avait eu au sol. Alors, il faut comprendre pourquoi. Ben, vous avez l'explication quand vous regardez. Ça, c'est le signal de 2 bolomètres, hein, à 143 GHz, l'autre à 545, en fonction du temps. Et l'échelle du temps, ici, vous avez, ce sont des secondes. Hein, c'est sur 200 secondes, d'un bord à l'autre. Et donc, ça fait 3 minutes environ. Alors, la première chose que vous voyez sur cette courbe en haut, hein, aux grandes longueurs d'onde, à 143 GHz, vous voyez cette sinusoïde-là, qui est le dipôle. Je vous ai dit qu'il y a un côté, à cause du mouvement propre de notre Soleil, il y a un côté qui est un peu plus chaud, un côté qui est un peu plus froid. Et on voit aussi ici la galaxie. Et puis on voit tous ces pics ici. Alors la galaxie, on voit que c'est la galaxie parce qu'à chaque fois qu'on passe dessus, on est dessus et puis on la voit dans tous les canaux ici. C'est-à-dire on la voit plus à fréquence plus élevée, hein, plus courte longueur d'onde. C'est normal qu'on voit la galaxie et on voit presque plus à 545 GHz, on voit presque plus le dipôle, c'est normal. Par contre, ce qui est beaucoup moins normal, ce sont ces pics ici. Et ces pics, ils résultent de l'effet des rayons cosmiques sur les détecteurs. Et on voit bien ça, que ce ne sont pas des sources, d'une part, parce qu'ils ne sont pas reproductibles un tour après l'autre, alors qu'on observe le même cercle sur le ciel, hein, mais aussi parce que même ce détecteur-là, qui est un détecteur témoin qui est aveuglé, il a aussi le même genre de problème ici. Et on avait prévu qu'il y aurait des rayons cosmiques, mais on n'avait pas prévu qu'il y en aurait autant. Et le fait qu'il y en ait autant, c'est dû à quelque chose de très particulier que nous vivons actuellement. Vous savez qu'il y a un cycle solaire qui est d'environ 11 ans. Et ça, c'est l'activité solaire avec le nombre de tâches solaires qui représentent l'activité depuis 1960. Et vous voyez qu'on voit très bien ce cycle. Et le problème, on est ici actuellement en 2011. Et on devrait être au maximum d'un cycle, eh bien on ne l'est pas. On a un soleil extrêmement calme. Et alors, qu'est-ce que le soleil a à voir avec les rayons cosmiques? Eh bien, c'est que le vent solaire repousse les rayons cosmiques d'origine galactique. C'est le vent solaire, c'est des particules, ben ça bloque les rayons cosmiques. Et on voit ça ici avec ce détecteur qui est attelé au Groenland, ce détecteur de l'Université du Delaware, dans lequel on voit le rayon cosmique qui suit le nombre de rayons cosmiques détectés ici, qui suit en gros une courbe opposée à celle du cycle, hein, qui a un maximum en bas de cycle. Eh bien, ici, on bat tous les records en ce qui concerne les rayons cosmiques. Voilà, donc on est confronté à ça, mais ça ne nous empêche pas de vivre parce qu'on dispose de cet outil extrêmement puissant qui est la répétition des mesures, puisque chaque cercle est observé 40 fois, donc ça nous permet d'éliminer tous les rayons cosmiques parce qu'ils n'apparaissent pas au même endroit à chaque cercle. Et puis, par ailleurs, le cercle est observé tous les 6 mois dans des conditions différentes et deux cartes prises à 6 mois d'intervalle doivent se superposer exactement. Si elles ne se superposent pas, c'est signe qu'on a un problème dans notre mesure et que notre instrument ne fonctionne pas tout à fait parfaitement. Par exemple, on peut imaginer qu'il y a un problème dans le pointage et que les cartes, au lieu de se superposer exactement, sont légèrement décalées l'une par rapport à l'autre, par exemple. Et donc, avant d'annoncer que toute la physique... Alors, il y a des objectifs scientifiques là-dedans qui peuvent s'accommoder de légers écarts de pointage ou de ce genre de problème. Mais les objectifs fondamentaux de Planck sur la cosmologie ne peuvent pas s'accommoder de ce genre d'erreur. Avant de dire que les lois de la physique qu'on connaît, auxquelles on croit, ne sont pas les bonnes lois, ben, il vaut mieux tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de dire de telles choses. Donc on a décidé, dans un premier temps, de dispatcher, de proposer la science des avant-plans, de tout ce qui est entre nous et la surface de dernière diffusion, et puis de garder l'interprétation des données qui peuvent être soumises, pour lesquelles on demande cette précision absolument extraordinaire et cette sécurité extraordinaire, d'attendre d'avoir validé vraiment tous les effets systématiques, d'avoir comparé. On est actuellement dans un processus de comparaison des cartes, de chasser tous les effets instrumentaux avant de pouvoir publier des résultats. Et alors, ceci dit, on a publié, vous voyez, ça c'est la carte qui a été publiée en juillet dernier, sur laquelle il y a beaucoup de physique dont je vais, bien que j'ai dépassé mon temps, je vous prie de m'en excuser, je vais vous dire un mot quand même sur ces résultats. Bon, soit je passais tout mon temps, toute mon heure à vous décrire les 25 articles publiés avec les résultats de Planck. D'abord, il y a certains domaines où je ne suis pas expert. Par exemple, les radiosources, je dois admettre que je connais très peu de choses et je serais capable de dire sans doute que des bêtises sur les propriétés statistiques des radiosources extragalactiques. Mais j'ai choisi, au lieu de faire ça, de vous parler du projet dans son ensemble et de vous présenter très rapidement quelques résultats. D'abord, pour vous dire qu'une des publications phares là-dedans, c'est le catalogue de 15 000 sources qu'on a publiées, hein, dont certaines sont galactiques en bleu, d'autres hors de notre galaxie. Et elles sont séparées ici dans cette animation. Hein. Et voilà aussi des sources infrarouges et radio dans le domaine extragalactique. Et on revient à l'image initiale de toutes les sources compactes et de la carte Planck. Pour vous dire que ce catalogue, on l'a fait extrêmement vite, après un seul survey. Donc il y a des barres d'erreur importantes sur les brillances, mais ça permet immédiatement à nos collègues d'aller voir les choses bizarres, et en particulier à nos collègues d'Herschel, qui ont une durée de vie limitée et qui peuvent aller voir immédiatement certains des objets, et aussi à nos collègues qui sont sur des satellites à rayon X et qui vont voir, par exemple, les amas de galaxies qu'on a découverts là, eh bien, ils sont déjà allés les voir. Et il y a des articles sur les comparaisons, sur tout ce qu'on peut tirer comme physique. Voilà. Alors, j'ai choisi, en plus de cet article phare, vous parler d'un autre article où on prend les données de Planck et d'IRAS. Vous savez que c'est un satellite infrarouge qui a été lancé dans les années 80 et qui couvre le domaine entre 2,5 microns et 100 microns de longueur d'onde. Et si on met toutes ces données ensemble, eh bien, on est capable de dire des choses intéressantes. Alors, vous voyez le genre d'articles qu'on publie, hein. Ça, c'est le nombre de signataires qu'il y a. Il y en a plus de 100, parce que les équipes sont considérables. Et on signe Planck Collaboration et ensuite par ordre alphabétique, un peu comme en s'inspirant des méthodes des gens en physique des particules. Hein. Donc, cet article que j'ai choisi comme ça, parce que j'ai travaillé pendant des années sur le milieu interstellaire et sur la poussière dans le milieu interstellaire, montre que dans notre galaxie, il y a du gaz qu'on ne voit pas, mais qui est trahi par de la poussière très froide que Planck voit, et que ça amène à réévaluer de plus de 25% la masse totale de notre galaxie. Mais c'est le genre de résultat qu'on a avec Planck. Ce n'est pas rien, ça change le point de vue qu'on a sur certains objets, en particulier même des objets qu'on pensait bien connus comme notre galaxie. Une autre chose extrêmement excitante, et vous en avez peut-être entendu parler avec Herschel, c'est ce qui concerne les cœurs denses, les cœurs froids et denses, détectés par Herschel et Planck. On voit ici tous ces points un peu brillants, ça c'est du milieu interstellaire, la région de Rho Ophiuchus. Chaque point ici, c'est une, je ne sais pas si vous voyez la flèche là, le long de ce filament ici, de même que le long d'autres filaments, c'est une région d'étoiles en formation. Et on a eu la démonstration absolue comme ça, c'est une région d'étoiles en formation, pas encore formée, mais qui peuvent former ou ne pas former des régions. Et on se trouve avec cette grande statistique sur les régions de formation d'étoiles qui nous donne des informations sur comment, à partir d'un filament, eh bien, en fonction de la densité du filament, ces étoiles vont se former ou ne vont pas se former, et qui nous permettent... Alors, je vais ici... Ici, voilà, on a pu évaluer la distance de ces cœurs denses tels qu'on peut le reconstruire à partir des observations complémentaires. Et voilà donc une partie des 1000 cœurs denses qu'on a détectés avec Planck sur tout le ciel, et donc qui renouvelle l'idée qu'on se fait de la formation d'étoiles. Et je voudrais terminer, j'ai été un peu long, je vous prie encore de m'en excuser, pour vous montrer ici à peu près la moitié du core team de Planck. C'est-à-dire qu'ici, il y a 120 personnes. En fait, il y a 250 à 300 chercheurs qui, à travers le monde, travaillent sur les données Planck, à essayer d'extraire de la science, à travailler à réduire les données, à éliminer les effets instrumentaux. Et on est tous très, très, très occupés. Et voilà la liste des laboratoires français, ici, qui collaborent à l'instrument haute fréquence, des autres laboratoires dans le monde qui contribuent à cet instrument et des laboratoires qui contribuent à l'instrument basse fréquence, dont le principal investigateur est italien. Vous voyez que c'est un travail d'équipe. Donc je vous remercie de votre attention et de votre patience.
C'était Jean-Michel Lamarre du laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique. Il s'exprimait sur l'image renouvelée de l'univers que nous offre le satellite Planck et c'était une conférence donnée au Bureau des longitudes en mars 2011. Restez à l'écoute de nos retransmissions et téléchargez dès maintenant les autres conférences du Bureau des longitudes sur le site de Canal Académie dans les émissions En colloque rubrique Science. Et puis sachez que les conférences du Bureau des longitudes sont ouvertes au public. Et pour connaître les prochaines dates, vous pouvez vous connecter sur le site www.bureau-des-longitudes.fr. Merci et à bientôt pour de nouvelles retransmissions.